Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On pourrait trouver paradoxal, mes frères, que dans l'introïde de la messe d'aujourd'hui, on utilise le psaume 42e, qui est un psaume de joie, celui que le prêtre et ses servants utilisent au moment des prières au bas de l'autel. C'est un psaume qui nous invite à la joie. Même si ces paroles ne sont pas employées, il contient celle-ci, « Intro ibo ad altare dei, ad deum quilietificat juventutem meam ». Je m'avancerai vers l'autel de Dieu, vers ce Dieu qui réjouit ma jeunesse. Il semble paradoxal que l'Église utilise ce psaume alors que s'ouvre le temps de la Passion, au cours duquel, plus que jamais, le chrétien commémore le rejet de Jésus par son peuple, sa condamnation, ses humiliations, sa souffrance et puis sa mort. Si l'on osait, on dirait qu'il y a comme une farce de mauvais goût de la part de la liturgie, quelque chose comme de l'humour noir. Mais parce que nous savons bien que notre mère, l'Église, a bien trop de respect envers son époux et beaucoup trop d'amour envers ses enfants pour donner dans ce genre de mauvaises plaisanteries, c'est dans une autre direction, bien sûr, qu'on doit trouver la clé de ce paradoxe, de joie et de souffrance à la fois. Joie et mort, ce sont deux mots qui ne riment pas du tout, et pas du tout, et qui, évidemment, dans une perspective athée, dissonnent totalement. Il a fallu que l'être humain soit très industrieux pour supporter la perspective qu'un jour il lui faudrait mourir et pour tenter de vivre bon an, mal an dans les joies que l'existence lui offre. Toutes sortes de faux fuyants donc ont été inventés par l'homme pour pallier toute une gamme de palliatifs, tous plus pathétiques les uns que les autres, il faut bien l'avouer, pour pallier cette mort qui en réalité est effrayante. On a plusieurs manières d'esquiver ce caractère terrible, redoutable, inévitable de la mort. Soit, c'est vraiment au bas de l'échelle des artifices, on tente naïvement d'enrayer la fuite du temps à force de lifting et d'autres subterfuges dont certaines dames ont le secret ou croient détenir le secret. On essaye des cures de jouvence, on mange bio et on pense bien. On essaye vraiment d'enrayer cet horrible temps qui passe et on sait que forcément on aboutit à un mur. Un peu plus haut dans cette série des artifices que l'homme s'est concocté pour essayer de repousser au plus loin la mort, il y a évidemment tout ce que lui offre la médecine quant à rallonger sa durée de vie avec ce rêve prométhéen qu'un jour enfin nous serons affranchis de cet obstacle à la race humaine qui l'écrase chaque jour. Il y a un peu plus haut le divertissement. Le divertissement au sens pascalien du terme, pour esquiver la gravité d'une existence qu'il sait, quoi qu'il advienne, vouée à la mort, eh bien, l'homme joue au piquet. Le piquet, c'était un type de jeu de cartes, comme dit Pascal. Il joue au piquet. Voilà, il sombre dans une sorte d'ambiance ludique permanente et avec une surenchère de loisirs, il essaye d'oublier, c'est une sorte de drogue qui lui permet d'oublier qu'il lui faudra bel et bien, un jour ou l'autre, tirer sa révérence de ce bas monde. Et puis, je crois, en haut de toute cette gamme de palliatifs très humains, trop humains, on trouve eh bien, la posture héroïque, qui est extrêmement dure au fond. La posture d'un Heidegger, par exemple, qui veut regarder la mort droit dans les yeux, et qui croit que parce qu'il tutoie la mort, il arrivera en quelque sorte à la domestiquer, tout en n'étant pas dupe du fait qu'un jour ou l'autre, il faudra mourir, et tout en croyant bien qu'après la mort, il n'y aura rien. C'est cette formule terrible de Heidegger qui prétend que l'homme est un être vers la mort. On traduit parfois par « un être pour la mort », ce n'est pas le terme qu'Heidegger emploie. Un être vers la mort. Toute son activité est orientée vers ce terme ultime qui marque définitivement la fin de tout. Heidegger n'a aucune foi en la vie éternelle. Et il a une autre phrase qui est tout à fait redoutable. « Dès qu'un humain vient pour la vie, il est assez vieux pour mourir. » C'est terrible. Dès qu'un petit enfant naît dans le sein de sa mère, voilà qu'il est suffisamment vieux pour mourir. C'est-à-dire qu'en permanence, l'épée de Damoclès se trouve sur la nuque de ce tout petit, et jusqu'à ses plus vieux jours, s'il a la chance, non pas la grâce, parce que ce serait trahir Heidegger que de dire cela, qu'il ne croyait pas en Dieu, s'il a la chance d'aller encore jusqu'à 60 ans, 70, 80 pour les plus vigoureux, comme dit l'Écriture, eh bien, il est toujours dans cette perspective de la mort. Une telle attitude, en réalité, d'héroïsme, c'est vrai, un certain héroïsme athée, je crois, masque à grand-peine, quoi donc un désespoir foncier. Elle n'est autre qu'un palliatif. Ma posture héroïque est un palliatif beaucoup plus noble que la société ludique, du divertissement, beaucoup plus noble que toutes ces espèces de sinécures que j'utilise pour essayer de rester jeune. Bien sûr, mais c'est un palliatif quand même. On a l'impression d'être avec Heidegger devant un enfant qui, pour se donner du courage, alors qu'il pénètre dans une forêt obscure, sur un chemin qui l'effraye, eh bien siffle ou chante à tue-tête pour se rasséréner, sachant bien qu'en réalité, si quelqu'un survient, il ne pourra rien faire. Et pourquoi l'Église, face à cette mort qui impressionne l'humanité, qui est, comme le dit Bossuet, la reine des épouvantements depuis toujours, pourquoi donc est-ce que l'Église se permet devant cette mort de demander que nous gardions la joie, que nous soyons dans la joie? Eh bien parce qu'elle sait, cette Église, et si elle nous invite à l'allégresse, c'est qu'elle sait que dans cette sainte quinzaine, nous nous apprêtons à revivre la victoire décisive du maître de la vie, qui est venu dans la chair, qui s'est rendu passible et qui s'est rendu mortel, sur ce qui nous effraie, sur la mort. Le temps de la Passion, c'est un temps de combat dont le Christ sort gagnant, comme nous allons le chanter au Vêpres de Pâques, dans le Victime Paschali Laudes. Mort et vie, en un duel gigantesque, souvenez-vous, se rencontrent. Mort, le prince de la vie règne vivant. Voilà ce que nous offre le Christ, et voilà ce que son épouse, à travers la liturgie, nous offre, la certitude que, enfin, pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, un homme est mort, mais pas en vain. C'est la seule fois dans l'histoire que quelqu'un est mort afin que la vie soit communiquée en plénitude, non pas seulement à lui-même, mais à toutes les créatures qui adhèrent à cette offre que leur fait le Christ. Parce qu'on me dira que par le passé, avant même le Christ, bien des hommes ne sont pas morts en vain. Ils ont permis à une cité de rester intacte. Ils ont héroïquement offert leur vie pour le bien de leur famille, ou que sais-je. Et leur œuvre demeure une œuvre littéraire, une œuvre picturale, une œuvre architecturale ou politique, que sais-je. On me dira donc que Jésus n'est pas le premier à n'être pas mort en vain. Oui, mais aucun de ces êtres-là n'est revenu. Et aucun de ces êtres-là n'a offert à ses contemporains, à ses proches, la consolation et la vie, ce que fait le Seigneur Jésus. Et il ne faut pas se méprendre, le chrétien ne tient pas pour rien la mort. L'Église n'a aucune sympathie pour la mort et l'Église ne cache pas la mort. Elle ne cherche pas à escamoter la mort. Vous avez déjà assisté à une messe de Requiem, les habits liturgiques sont de noir et on ne fait pas semblant que la famille n'est pas en deuil. Il y a quelque chose de très grave, quelque chose qui va jusqu'à faire pleurer le maître de la vie, le Seigneur lui-même, à la perte de son ami Lazare, à la perte du fils de la veuve de Naïm. Que fait Jésus? Il pleure. Mais le chrétien sait qu'il peut domestiquer la vie. Il peut domestiquer la mort, autant pour moi. C'est un lapsus, puisque la mort donne sur la vie. La petite Thérèse disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Vous voyez, grâce au Christ, voilà ce que réussit le chrétien, la domestication de la mort. Ô mort, où est ta victoire? Il fallait oser, saint Paul l'a fait. Regardez saint François d'Assise, qui est, je le sais, cher au cœur de certains d'entre nous. Saint François d'Assise, loué sois-tu Seigneur pour notre sœur la mort. Là encore, il fallait oser. Et les Pères du désert, souvenez-vous, parce que vous l'avez déjà vu sur des représentations picturales sans doute, sont représentés dans leur ermitage très souvent avec un crâne humain sous les yeux. Non pas pour se désespérer de cette vie, et à la façon d'un Heidegger, affronter héroïquement la mort en riant à la face de la mort, tout en sachant qu'après il n'y aura rien, mais parce qu'il s'efforçait chaque jour de se souvenir qu'il n'était entré dans un ermitage, qu'il n'avait tout quitté, que pour parvenir à domestiquer la mort. Les petites sœurs Clarisse, autrefois, avant la réforme de la discipline de leur ordre, avaient pour tradition, dans leur cellule, sur leur lit, de mettre un drap mortuaire. Un drap noir avec une croix blanche. On dira que tout cela est très macabre, mais qui connaît un peu les Clarisses sait qu'elles n'ont rien de macabre. C'était là encore une manière pour elles de se souvenir qu'il fallait qu'elles arrivent, c'était leur vocation notamment, non seulement à aimer le Seigneur, mais aussi à domestiquer la mort. Voyez donc ce vaste projet de l'Église qu'offre le Seigneur Jésus, que nous arrivions enfin à domestiquer la mort, à prendre un aval sur la mort. Cet apprivoisement, nous le savons bien, ne se fait pas en un jour. Cet apprivoisement prend toute une vie en réalité, qui parfois peut être courte, alors il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui permet aux chrétiens d'apprivoiser la mort? Je crois qu'il y a deux choses fondamentalement. La vie sacramentelle, parce qu'enfin, lorsque nous recevons les sacrements, qu'avons-nous en nous? La Trinité Sainte, c'est-à-dire « je suis celui qui suis ». Nous avons en nous l'être même, dans toute sa plénitude. Qu'avons-nous à craindre si, non seulement nous sommes en présence de la Trinité, mais si la Trinité vit en nous? Si le Christ qui a vaincu la mort vit en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quel obstacle, quel ennemi pourra avoir raison de nous? La mort, pas plus qu'aucun autre ennemi, ne saurait nous abattre. Nous avons la vie en nous, nous n'avons donc rien à craindre. Si vous avez peur de la mort, courez donc cueillir la grâce sacramentelle, allez donc vous confesser, allez donc communier. Car vous avez, non pas le talisman, non pas une potion magique, mais bien l'auteur de toute vie. Alors que craindre? Et puis il y a un deuxième moyen que le chrétien peut utiliser, que le Seigneur met à sa disposition, c'est la parole de Dieu. Méditer au cours de sa journée sur la parole de Dieu, tenter d'y conformer sa vie, c'est vivre d'ores et déjà d'un face à face avec celui qui est, avec celui qui est la parole du Père, c'est-à-dire le Verbe. Autrement dit, en méditant sur la parole de Dieu, nous ne faisons pas que recueillir le témoignage des grands saints qui ont vu vivre notre Seigneur. Nous vivons réellement, mais mystérieusement, j'en conviens, en présence de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est la vie. Autrement dit, nous arrachons chaque instant à ce qu'il a d'éphémère. Nous inversons la vapeur de cette pente inclinée qui semble nous amener vers la fosse. Nous donnons un poids d'immortalité, mais réel, à chacun de ces instants qui passent. Notre vie prend alors un tout autre relief. Mais si vous me dites que je rêve, je vous rappelle les paroles du Seigneur lui-même, qui est le prince de la vie, comme on l'appelait dès l'Ancienne Alliance. On parlait du Messie ou de Dieu comme étant le prince de la vie. Je vous rappelle les paroles du Seigneur, qui écoute ma parole à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Vous voyez donc que l'Église ne nous propose pas une vaste fumisterie, elle ne nous propose pas un projet futur, plus ou moins éthéré, qui finalement n'adviendra jamais, et qui tenterait de nous consoler pour que cette existence présente ne soit pas si terrible que pour le commun des mortels. Non, l'Église nous promet la vie dès maintenant, et la vie en plénitude. À nous de choisir si nous sommes du camp de celui qui est le vainqueur, comme l'appelle l'Apocalypse, le vainqueur et le vivant. Ce sont les deux noms qu'on donne à Jésus dans l'Apocalypse. Ou alors, si nous voulons nous contenter de cette vie humaine, seulement humaine, trop humaine, qui mène à la fosse. Mes amis, donc, cette quinzaine doit être pour nous l'occasion de nous ressourcer dans les sacrements et de nous ressourcer dans la parole de Dieu. Profitez, je vous en conjure, profitez de tous les textes que l'Église met à notre disposition pendant cette quinzaine. Chaque jour, des textes différents. N'attendez pas le tridôme pascal pour vous plonger dans cet héritage, pour vivre, pour permettre à chacun de ces instants éphémères de prendre une dimension éternelle. Dès maintenant, ouvrez votre Bible, prenez quelques versets et ruminez-les. Alors, cette rumination vous permettra d'entrer dans la vie, dès maintenant, d'être en présence même de Jésus-Christ. Voyez pourquoi l'Église a toutes les raisons, dès le seuil du temps de la Passion, alors que nous semblons nous acheminer vers des événements tristes, et alors qu'il nous semblerait plus opportun d'avoir vraiment une phase de carême, parce que jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas vraiment eu. Alors, ces 15 derniers jours, efforçons-nous d'avoir vraiment une phase de carême. Non, l'Église nous dit au contraire, sois heureux, sois joyeux, sois dans l'allégresse, parce que tu vas pouvoir vraiment méditer sur les éléments qui te confèrent la vie, et puiser à ces deux sources des sacrements et de la parole de Dieu qui, en toi, font vivre le Verbe et avec lequel tu n'as rien à craindre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.